Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Sur Radio Django, soyez les bienvenus pour cette cinquième édition du grand direct de Radio Django. Une grande équipe autour de la table ce soir pour aborder les rubriques de Django, je les nomme Marie, Daniel, Erika, Fabio et Jean-Luc. Bonsoir à vous cinq.
Bonsoir.
On va commencer avec Vivre à Lausanne et c'est de la santé ce mardi. Et ce soir, Marie, tu vas nous parler du bus bilan.
Oui, exactement. On rencontre Sophie Vassot qui est coordinatrice du bus bilan et conseil santé. C'est un bus qui propose un dépistage des risques des maladies cardiovasculaires et des conseils personnalisés.
Voilà, vous bougez pas, ce sera dans quelques instants. Ce mardi 5 mai, c'est la journée de la chaîne du bonheur pour récolter des fonds pour le Népal qui a subi ce terrible tremblement de terre il y a quelques jours. On en parle dans 10 minutes avec Jean-Marc Richard. À 18h15, la rose des vents, volet migration de Django. Il sera question de couture et de course à vélo. Ça tombe bien à quelques jours de la fin du Tour de Romandie. Quel rapport, Erika ?
Oui, on va parler de la 36e édition de la Journée nationale du vélo. Et on va parler aussi avec Anne-Marie González, formatrice du Centre Femmes d'Appartenance. On va parler aussi de l'atelier de couture qu'ils font.
Merveilleux. Eh bien, on prend note. Et nous accueillerons dans la Rose des Vents toujours, une nouvelle fois, Emmanuel Graff de l'association Accru pour nous parler de sa dernière réalisation, Daniel.
Oui, bonsoir. Emmanuel va nous parler donc de Carnet ukrainien, un documentaire réalisé il y a quelques mois et qui parlera notamment en fait de quatre situations, quatre portraits et dont le cœur est la migration.
7h20, Cultiver Lausanne avec l'agenda de la semaine, ce sera avec Fabio. Et on enchaîne avec toi Jean-Luc et nous allons faire de la cuisine, de la soupe aux livres.
Oui, alors c'est particulier, mais en fait Sébastien qui va nous présenter une soirée qui s'appelle la soupe aux livres. C'est un événement intéressant qui tourne autour de la découverte des livres. Les gens peuvent venir vendredi 8 mai dès 18h30, c'est l'occasion de lire, écouter, chanter et manger de la soupe.
Et bien voilà, ce vendredi donc avec la librairie Basta, l'occasion d'en parler ce mardi. Vivre à Lausanne, la rose des vents et cultiver Lausanne, c'est nos trois rubriques du mardi soir sur Radio Django. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h et je vous souhaite la bienvenue. Et on passe tout de suite à la première rubrique. Qu'est-ce que c'est la première rubrique ? Eh bien, c'est Vivre à Lausanne.
Radio Django, Vivre à Lausanne.
Eh bien, ça commence bien. Aujourd'hui, Marie, on parle du bus bilan et conseil santé pour un dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Ah, pardon, voilà.
Décidément. Bienvenue sur Radio Django.
Merci.
Alors Fabien, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité en Suisse. Des milliers de gens en meurent chaque année dans notre pays. Du coup, c'est un véritable défi pour les acteurs de la santé. Et pour les prévenir au mieux, l'une des solutions est de dépister les facteurs de risque à temps.
Et c'est précisément ce que propose le bus bilan et conseil santé.
C'est exact. Je vous propose d'écouter Sophie Vassot, la coordinatrice.
Alors, il s'agit d'un bus qui circule dans le canton et propose à la population un dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Le bus est destiné à tout le monde à partir de 18 ans. C'est vrai que l'essentiel des gens qui viennent nous voir ont entre, je dirais, 40 et 70 ans. Le bus circule du lundi au jeudi dans le canton et il se déplace dans un grand nombre de localités du canton.
On entend donc le bus circule dans tout le canton et aussi toute l'année. Et Marie, concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qui s'y passe ?
Alors la visite se divise en deux interventions. La première pour un dépistage et la deuxième pour des conseils. On retrouve Sophie Vassot.
La visite coûte 40 francs par personne, donc elle dure 30 minutes. Où on commence par 15 minutes d'analyse. Ces visites sont effectuées par une de nos deux infirmières spécialement formées. Donc, on commence par un prélèvement capillaire sanguin, donc c'est une petite pique au bout du doigt. Et puis, on effectue les analyses. Alors, on mesure le taux de cholestérol, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, les triglycérides. On fait un dépistage du diabète pour les personnes de plus de 45 ans. On mesure la tension artérielle. On mesure aussi le tour de taille, le poids, on fait le calcul de l'indice de masse corporelle. On donne une information sur le tabac pour les fumeurs. Et puis, On compare aussi avec les anciens bilans si la personne est déjà venue nous voir. On suscite de quoi ? On passe à la partie qui traite des conseils. Donc, on transmet à la personne sa fiche de résultats. Ça veut dire qu'elle a toutes les données qui sont écrites, qu'elle peut aussi transmettre à son médecin si nécessaire. Et puis, en fonction des résultats des analyses, on va lui donner des conseils qui sont essentiellement liés à l'activité physique et à l'alimentation.
Des résultats d'analyse et des conseils adéquats. Et en fait, comment surviennent les maladies cardiovasculaires ?
Alors justement, c'est très intéressant. D'un côté, les gens peuvent les prévenir, mais d'un autre, ils ne peuvent rien y faire.
Alors, en termes de maladies cardiovasculaires, il y a évidemment des facteurs de risque qui sont non modifiables. Nous, on insiste sur les facteurs de risque modifiables qui sont essentiellement liés aux habitudes de vie. Donc, par exemple, une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, surpoids, le tabagisme, l'hypertension, le diabète ou le cholestérol. Donc ça, ce sont des facteurs de risque sur lesquels on peut agir.
Et qu'est-ce qui ne dépend pas d'elles ?
C'est l'hérédité, le sexe, parce qu'on sait que la femme est protégée d'une certaine manière jusqu'à la ménopause. Et puis, là, j'ai un facteur de risque important, les résultats se péjorent en général avec l'âge.
Il est donc possible en partie de prévenir ces maladies. Et si, en sortant du bus, le bilan est 100% positif, Marie ?
Alors c'est là qu'il faut faire attention. Personne n'est à l'abri. Pour ce qui est de l'alimentation, il faudrait toujours viser un équilibre. Donc limiter les sucreries, les snacks salés et l'alcool. Et à l'inverse, manger 5 portions de fruits et de légumes par jour et boire 1 voire 2 litres d'eau. Évidemment aussi, il faut faire attention à son apport en graisse. Donc limiter les viandes grasses comme les côtelettes d'agneau, le salami, les saucisses ou encore les fromages crème et double crème comme le mascarpone.
Bon, un autre challenge, c'est de limiter toutes les graisses cachées.
Tout à fait, rien qu'une mozzarella contient déjà l'équivalent de 30 grammes d'huile et une portion de fondu 70 grammes.
Ah oui, quand même. Et à propos de l'activité physique ?
Alors là aussi, il faudrait en pratiquer au moins 20 minutes chaque jour en optant soit pour de la marche, soit pour du vélo, de la natation par exemple. On prévient ainsi les maladies cardiovasculaires, mais aussi le diabète et bien sûr une surcharge pondérale.
On l'aura donc compris, pas de cigarettes, mais du sport et une alimentation équilibrée permettent de limiter les risques. Et Marie, pour tous ceux qui nous écoutent, où doivent-ils se rendre ?
Alors, bonne nouvelle pour nos auditeurs lausannois, puisque le bus sera à l'EPFL dès lundi prochain et jusqu'au mercredi 13 mai.
Et pour s'assurer d'avoir un rendez-vous, il est conseillé de s'inscrire ?
Alors, selon les endroits, le bus il est pris d'assaut. Il est donc vivement recommandé de prendre rendez-vous, soit sur le site www.bilanconseilsanté.ch ou par téléphone au 021 623 37 45.
C'est noté donc du lundi 11 au mercredi 13 mai sur le campus de l'EPFL. Merci Marie pour ces explications et à Sophie Vassot, coordinatrice du bus bilan et conseil santé. Notez encore que vous pouvez retrouver toutes ces dates et ces numéros de téléphone ainsi que le site internet sur le nôtre www.django.fm. Ray Barreto sur Radio Django, et c'est le moment de passer à la suite puisque on l'a entendu, on en a entendu largement parler, cette malheureuse grande catastrophe au Népal, terrible tremblement de terre qui a fait de nombreuses victimes. La chaîne du bonheur ouvre ce mardi son standard téléphonique pour la journée. Bonsoir Jean-Marc Richard. Ah, est-ce qu'on a Jean-Marc au téléphone ? Bonsoir.
Oui, je suis là.
Voilà, on l'a retrouvé. Quels sont les chiffres maintenant à 18h14 ?
Alors, les chiffres, c'est 7 046 718 francs, pour être très précis. C'est-à-dire qu'on a passé la barre des 6 millions. C'était assez inespéré au début de la journée, même si ça a démarré très rapidement. On fait des bons maintenant d'à peu près 1 million, ce qui était le cas ce matin entre 6h et 9h. C'est-à-dire qu'il y a un très beau et très fort élan de solidarité pour les victimes du tremblement de terre au Népal.
Est-ce qu'il y a quelques personnes ou quelques témoignages qui ont été passablement touchants ou émouvants ?
Énormément. Il y a des gens dont les membres de la famille ont été touchés par ce tremblement de terre. Par exemple, il y a ici, parmi les bénévoles, Rita, dont le neveu était à Katmandou lorsque la terre a tremblé. Il a pu sauter par la fenêtre du bâtiment dans lequel il se trouvait. Malheureusement, tous les autres occupants ont été ensevelis sous les décombres et lui a erré pendant 2 jours avant d'être récupéré et de pouvoir retrouver la Suisse. C'est-à-dire s'il y a de l'émotion, il y a de l'émotion aussi de la part de celles et de ceux qui nous appellent pour marquer leur solidarité, de l'émotion simplement parce qu'on a vu des images ou parce qu'on est très touché par la situation et parce qu'on se rend compte que concrètement, il y a beaucoup à faire. Non seulement dans l'urgence, mais aussi pour la reconstruction. Et ça, bien sûr, avec le même numéro de téléphone depuis le début de la matinée, hein, parce qu'il y a plein de téléphonistes qui attendent des appels. Donc,
alors,
si vous voulez.
J'allais te le demander justement. Le numéro, alors, peux-tu nous le rappeler pour joindre le standard ?
C'est 0800 87 07 07 0800 87 07 07. Voilà le numéro. Et il est important de le faire maintenant. Ça va être un petit peu saturé peut-être plus tard. Donc, n'hésitez pas.
Alors, dès maintenant, et puis on peut téléphoner jusqu'à minuit. C'est bien cela, Jean-Marc ?
Eh oui, à minuit, ce sera la conclusion de cette journée qui a commencé à 6h du matin. Une journée massive de solidarité et surtout avec pleine d'émotions.
Et une dernière petite question, est-ce qu'il y a un objectif de gain pour ce soir, pour de montant ? On a entendu qu'on est passé à plus de 7 millions. Un objectif pour ce soir ?
Alors, l'objectif, ce serait d'atteindre, mais ça va être difficile, mais pourquoi pas, hein ? Rien n'est impossible d'atteindre les 10 millions.
Les 10 millions. Eh bien voilà, donc l'aide, c'est aussi avec vous, chers auditeurs, au 0800 87 07 07 0800 87 07 07. Merci beaucoup Jean-Marc Richard et tout
Merci
de bon pour cette fin de journée.
À vous aussi. Salut Fabien, merci.
Merci. Et on se retrouve dans quelques instants avec La Rose des Vents sur Radio Django à 18h16. Ah, ça fait du bien sur Radio Django, Chris Joss.
Radio Django, La Rose des Vents.
Aujourd'hui, on va entrer dans les couloirs de la 33e édition de la Journée lausannoise du vélo et pour fêter du vélo qui aura lieu le 30 mai prochain au Chalet Tagobet dans les Hauts-de-Lausanne et qui arrive en plein de nouveautés, surtout dans sa garde-robe. Bonsoir Erika.
Bonsoir Fabien. Oui, cette année, des femmes migrantes font partie de la préparation de la traditionnelle fête de sport lausannoise en contribuant à la création des déguisements pour animer les parcours des familles. Une collaboration possible grâce à un atelier mis en place par les courses de couture du Centre Femmes d'Appartenance. Mais avant d'enfiler les fils à la machine à coudre, je vous propose d'écouter Mathieu Germanier, chargé de l'organisation de la fête de sport pour la ville. Il nous explique tout de suite en quoi consiste cette manifestation.
Oui, alors c'est une manifestation, c'est la fête du vélo à Lausanne. Donc c'est un peu toutes les disciplines du vélo, que ce soit la route, le VTT, le vélo électrique et une catégorie un peu plus pour les familles qui s'appelle la rando des farfadets. C'est une manifestation qui a déjà une belle histoire et qui est déjà bien intégrés et dont les Lausannois ont l'habitude.
Chaque année, le service de sport louait des déguisements pour les comédiens qui animaient la randonnée des farfadets. Cette année, Mathieu Germanier a pensé faire autrement. Il a pris contact avec les centres femmes et la machine s'est mise en route.
Alors cette participation, c'est dans le cadre de la rando des Farfadets, justement pour les familles, où c'est un petit parcours dans la forêt du chalet à Gob en famille, où différents postes sont proposés pour les enfants. Ils peuvent s'arrêter, profiter de différentes animations. Puis la rando des Farfadets, elle s'appelle parce qu'il y a en fait des Farfadets, voilà, qui sont des petits lutins en fait de forêt, et chaque année ils sont déguisés. Et on avait pris l'habitude de louer les costumes, et cette année on avait l'envie de créer des costumes, qui a un but un peu différent, un but un peu social, un peu développement, et puis trouver ce centre femme. Il s'est avéré que le centre femme propose un atelier couture, et pour la création de ces costumes, c'était un peu l'idéal pour nous.
C'est donc comme ça qu'a vu le jour l'atelier de couture des Farfadets au centre femme.
Oui, et depuis un mois et demi, Nihayat, Iranien, Mana, du Kurdistan, Valbon, Kosovar et Sahwa, Chinoise, se retrouvent tous les mardis pour confectionner les costumes de la journée lausannoise du vélo. Si vous êtes prêts, on va entrer au corps d'une petite usine bien particulière. Comment vous appelez ?
Je m'appelle Manat.
Manat, qu'est-ce que vous faites maintenant ?
On a fait des costumes. J'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais faire des costumes comme maintenant.
C'est différent le travail que vous avez fait avant au cours de couture et maintenant ?
Oui, c'est très différent. Avant, c'était juste pour apprendre. Et maintenant, je viens avec grand plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais on fait une chose pour quelqu'un. C'était grand plaisir et j'étais très ravie d'être ici et très contente aussi. Maintenant, on travaille, on vient de commencer pantalon et c'est la première fois quand je commence pantalon. Avant, je pensais que c'était trop difficile, mais des personnes qui coupent des pantalons et nous qui fait de tours, et l'autre qui fait de qui met de plastique, c'est bien.
Est-ce que vous avez trouvé... Vous mettez ça avec le marteau aussi ?
Je mets avec marteau ça, un peu tiré, je pense. Okay. Avec marteau, elle reste très jolie. Avec ça, vous voyez...
Vous préférez... D'accord, ok, il n'y a pas de problème pour moi. Non, je peux faire comme c'est bien pour vous.
Prénom ?
Nihaya.
Pourquoi tu es au centre femme ?
Je suis au centre femme parce que je voudrais pratiquer la langue française et aussi j'apprends aussi la culture.
T'aimes bien être ici ?
Oui, ça m'a plaisir. Faire quelque chose de Lausanne. Lausanne m'a donné quelque chose. C'est... Avant, je suis très triste. Mais quand installé à Lausanne, j'apprends comment je vais sourire. Ce rire et comment je me sentis de bonheur, de joie. Moi aussi, je veux donner quelque chose de Lausanne.
Vous appelez comment ?
Oh. Oh, je m'appelle Zawa, oui. Mon prénom, c'est Zawa. Mon nom de famille, c'est Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette course sont importantes pour les femmes?
Oui, moi je pense que c'est très important, surtout pour nous, pas de bons moyens pour aller faire une école, pour faire une formation, ça coûte trop cher aussi.
Et Balmona, pourquoi tu es venue au centre de femmes?
Moi, j'ai commencé pour venir au centre femme pour la couture. J'ai commencé encore la couture.
Est-ce que tu aimes bien être ici?
Oui, c'est très content. J'ai très amusé qu'on venait ici, comme ma famille. Je cherche, il y a beaucoup de femmes, et je suis très content.
Une véritable immersion grâce à toi, Erika. Merci beaucoup d'être allé sur le terrain. Et justement, on va se rendre au centre couture, centre femme, et nous accueillons Anne-Marie Gonzalez. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable et formatrice des cours de couture depuis 16 ans. Soyez la bienvenue sur Radio Django. Alors, vous avez écouté avec nous ces extraits. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ?
Ben, c'est beaucoup d'émotions et puis aussi beaucoup de plaisir d'entendre toutes ces femmes, parce que c'est vrai que c'était aussi un petit peu notre but, qu'elles se sentent bien et qu'elles puissent participer aux différentes activités du Centre Femmes.
Pourquoi le Centre Femmes a-t-il accepté l'invitation du Service des Sports pour participer à la fête du vélo?
Parce que c'est un exercice intéressant pour toutes ces femmes de pouvoir travailler pour l'extérieur. C'est une forme de visibilité et de valorisation pour elles.
Comme ça se déroulent les courses de couture?
Alors, ce cours de couture de costume est un peu différent des cours de couture qui ont lieu sur toute l'année. Ils ont lieu le mardi après-midi, ils sont composés de 5 femmes. Et puis, c'est vrai qu'en début d'après-midi, on va distribuer le travail. Chacune a un rôle bien précis et puis elles appliquent vraiment toutes les consignes. C'est vrai que si on entre dans un atelier de couture le mardi après-midi, on sent énormément la concentration et le travail.
Alors justement, comment est-ce qu'ils se déroulent ces cours de couture ?
Effectivement, c'est ce que j'ai dit avant, hein, c'est que toutes les femmes, en fait, commencent à travailler en suivant des indications.
Voilà, alors il y en a certaines qui partent de zéro notion, hein, aucune notion, et peu de niveau de français. Est-ce que c'est pas trop compliqué ?
Alors, elles ont quand même des notions, parce que cet atelier a été conçu avec des femmes qui connaissent déjà la couture, donc qui ont suivi la formation. Maintenant, au niveau du français, c'est des groupes hétérogènes, et en couture, on travaille avec un objet qui est médiateur pour favoriser la langue. Et certaines femmes ont aussi suivi des cours de français au Centre Femmes, et après coup, participent à la couture.
Est-ce que vous avez une langue qui revient régulièrement, avec peut-être un traducteur, ou pour avoir quelques mots bien techniques, peut-être ?
Non, parce que en fait, la technique, on l'apprend aussi. Il y a vraiment un vocabulaire spécifique en couture et on travaille beaucoup sur la répétition et l'explicitation.
Dans le reportage aussi, nous avons écouté des enfants parce que quand on parle des femmes, on parle aussi des mamans. Vous pouvez nous expliquer comment est possible que des mamans puissent participer à vos formations ?
Les activités du Centre Femmes ont été réfléchies justement pour que ces femmes puissent en bénéficier. Et c'est vrai, quand une maman arrive au Centre Femmes, elle sera accueillie ou va suivre une formation ou va participer à différents ateliers et leurs enfants seront pris en charge par des éducatrices. Et c'est vrai que pour certains de ces enfants, c'est le premier lieu de socialisation et aussi la première séparation d'avec la mère.
Mmh. Et c'est vraiment un défi ambitieux. Êtes-vous contente du résultat?
Oui, je suis très contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment un beau projet et qui amène beaucoup de choses aux participantes. Et c'est vrai que la collaboration avec M. Germanier s'est bien passée. Les femmes sont impliquées et puis mes collègues au départ aussi étaient très enthousiastes.
Précisément, le résultat du travail, les courses de couture ont été récompensés. Le Centre Femmes s'est vu décerner le prix 2011 de la Fondation pour le développement de l'éducation permanente. Qu'a représenté cette reconnaissance pour vous ?
Déjà, ça a été une reconnaissance de l'activité et ça a positionné la couture dans l'axe de formation. Et c'est vrai que la couture, ce n'est pas seulement un atelier occupationnel, c'est vraiment une formation. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on sait coudre, on sait coudre parce qu'on a suivi une formation. Et c'est vrai qu'avec le prix de la FEDEP, on a pu aussi développer l'offre, ce qui permet vraiment aux femmes d'améliorer leurs compétences et de favoriser l'autonomie.
Si aujourd'hui d'autres femmes entendent ce sujet, où est-ce qu'elles peuvent s'adresser pour avoir contact avec vous ?
Alors, elles peuvent s'adresser au Centre Femmes, à la rue des Terreaux 10. On a des permanences d'accueil où des collègues vont vraiment les prendre en charge et puis essayer d'écouter quels sont leurs besoins, les orienter soit chez nous ou soit à l'externe.
D'accord. Et puis ces cours de couture donc, se font chez vous, à l'avenue des Terreaux ?
Les cours se font chez nous à l'avenue des Terreaux. On a 3 entrées par année et les cours durent 9 mois.
D'accord. Et ils sont à quelle heure, puisque vous disiez que c'est le mardi soir ?
C'est pas le soir. Le mardi après-midi, c'est cet atelier costume qui est vraiment un atelier particulier. Sinon, les cours ont lieu soit le matin, soit l'après-midi, et toujours dans un cadre d'horaire scolaire.
D'accord. Il y a encore de la possibilité de s'inscrire
Alors, il y a des inscriptions qui vont commencer début juin. Donc, s'il y a des personnes intéressées, elles peuvent déjà venir dès la semaine prochaine pour un rendez-vous d'inscription.
Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Nous vous souhaitons plein de succès pour la suite de cet atelier. Et on se réjouit d'avoir rendez-vous avec vous le 30 mai prochain au Chalet d'Agobet pour la fête lausannoise du vélo. Merci Anne-Marie Gonzalez.
Merci.
Et à très bientôt. N'oubliez pas que les inscriptions sont obligatoires et limitées pour cette journée. Je vous rappelle l'adresse si vous êtes intéressé, www.journeeduvelo.ch. Et merci à Erika et pédalez bien, je pense, le 30 mai.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.
La Rose des Vents vous propose de découvrir ce soir un documentaire réalisé sur l'Ukraine. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir Fabien. Bonsoir Emmanuel.
Mais on en a déjà parlé il y a quelques semaines sur Django. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de parler en détail de ce réalisateur. Vous l'avez dit. Bonsoir Emmanuel Graff.
Bonsoir.
Voilà, cette fois-ci, le micro est ouvert. Soyez le bienvenu sur Radio Django. Vous êtes à l'origine donc d'Alsace-Lorraine. Vous arrivez en Suisse en 1979, 1979, vous comprenez mieux ?
Je suis bilingue.
Ah voilà, bilingue. Parfait. Et vous poursuivez des études de socio-anthropologie à Lausanne. L'interculturel vous passionne et l'Ukraine particulièrement ?
C'est assez récent, mais oui.
D'ailleurs, vous êtes très actif au sein de la communauté ukrainienne de Lausanne. Vous fondez en 2014 l'ACRU, l'association culturelle Romandie Ukraine. Alors Emmanuel Graff, vous êtes l'auteur, on l'a dit, de ce documentaire que vous venez de terminer, intitulé Carnet d'Ukraine, un film documentaire qui propose un voyage entre la France, la Suisse et l'Ukraine. Ce film qui vous a occupé pas mal de mois, j'imagine, on aura l'occasion d'en parler, et il nous intéresse même ce soir. Comment est né ce carnet d'Ukraine, Emmanuel Graff ?
Alors, il est né... Je me suis rendu compte dans ma vie, il y a 2-3 ans, que l'Ukraine avait pris une importance centrale, petit à petit. D'abord, parce que j'avais comme directeur... Je travaillais dans un centre social, hein, aussi, accessoirement, dans le canton de Vaud. Le directeur que j'avais avait monté une ONG qui avait des activités en Ukraine. Ensuite, dans ma région d'origine, vous l'avez nommé l'Alsace-Lorraine, un peu par hasard, je rencontrais des historiens qui travaillaient sur l'histoire des Ukrainiens en Lorraine. Et c'est une histoire assez invraisemblable, qui est assez peu connue. Dans ma vie privée, j'ai rencontré ma femme qui est ukrainienne. Et enfin, il y avait plein de choses et c'était l'Ukraine qui était toujours là. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Voilà, c'est un signe, on peut le dire, oui, absolument.
C'est le hasard du réel, comme vous le dites.
Voilà, le hasard du réel, un fabuleux réel, oui.
Carnet ukrainien propose un voyage entre la France, la Suisse et l'Ukraine à travers 4 portraits. Comment s'est construit ce documentaire ? De qui et de quoi parle-t-on ?
Alors, j'ai pris les différents éléments dont je viens de vous parler, hein, et je me suis dit qu'ils étaient chacun assez différents, mais qu'ils avaient tous, qu'ils interrogeaient tous notre regard sur les pays de l'Est et sur les gens de l'Est, un regard qui est un peu, pas vide, mais très interrogatoire. On ne sait pas très bien qui sont les Européens de l'Est. Et je me suis dit que ces quatre histoires-là, elles pouvaient contribuer à mieux faire connaître les Ukrainiens de France, de Suisse et les Ukrainiens d'Ukraine, parce que je m'occupe aussi dans ce film à moitié des diasporas, soit d'Alsace-Lorraine, soit de la région lémanique.
Voilà. Mais quelle est la particularité de ces quatre portraits ? Parce que chacun a une histoire bien spécifique. Est-ce que vous pourriez revenir sur les quatre portraits de manière succincte ?
D'accord. Alors, le film commence par la rencontre en Lorraine d'un historien lorrain qui rencontre donc une sportive de haut niveau d'origine ukrainienne qui joue dans le club de la ville de Metz pour lui raconter une partie de l'histoire de l'Ukraine qui s'est passée en France. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu pendant 1942-1943 des camps. Un Lorrain sur 7 était slave entre 1942 et 1945. Je passe les détails, mais c'est vrai que l'armée nazie avait remplacé les hommes lorrains qui étaient absents par des soviétiques, donc des gens d'Ukraine, de Russie, de Pologne, etc. Et donc l'histoire de l'Ukraine, elle s'est jouée en partie ici.
C'est-à-dire qu'il y a
des camps où sont morts des dizaines de milliers d'Ukrainiens. Et c'est une histoire extrêmement méconnue, même en Lorraine même, et qu'on redécouvre ces derniers temps. Donc j'ai provoqué la rencontre entre un vieil historien de 70 ans, un Lorrain, et puis une jeune sportive de 25 ans, très connue en Ukraine. Et ça donne une rencontre intergénérationnelle et internationale sur un point précis de l'histoire, une histoire qui est très peu connue, mais qui est bouleversante.
Et ensuite, vous êtes parti de ce portrait à une autre histoire, celle d'Anna,
Voilà, alors Anna, c'est le chapitre 4. Anna, c'est vrai que le dernier chapitre, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, je vais filmer mon quotidien. Mon quotidien, c'est le quotidien que je partage avec Anna, qui est donc de l'est de l'Ukraine. Et je trouve passionnant les vies des migrants, aussi bien dans les détails quotidiens, par exemple, comment on reste en contact avec sa famille, par les moyens modernes, etc., qu'il n'y avait pas il y a 10, 15, 20 ans, les allers-retours entre le pays d'origine, etc. Comment est-ce qu'on se débrouille aussi dans le pays d'accueil, à passer le choc, parce que bon, toute migration est une forme de violence, donc après, comment on se lève, comment on tient debout et comment on avance. Et ça, j'ai vu, dans mon appartement, j'ai vu mon épouse avoir le choc, se lever et puis avancer. Et je voulais raconter ça. À travers ces allers-retours qu'elle fait entre Lausanne et Kharkov, sa ville d'origine. Je trouve que la vie quotidienne des migrants est assez peu connue, quoi, dans ces petits détails quotidiens.
Et c'est pour ça que
je l'ai sous les yeux.
Et c'est pour ça que ce documentaire a donc la particularité de partir de portraits précis pour évoquer des sujets beaucoup plus vastes. Vous êtes anthropologue de formation et vous parlez d'un fait social total. Mais de quoi s'agit-il ?
Bon, alors, j'ai fait un vol. En fait, j'ai volé un concept d'anthropologie que j'ai un peu appliqué à mon fil. En fait, un fait social total, c'est un fait dont on peut dire qu'il a des ramifications multiples, historiques, en l'occurrence linguistiques, puisqu'en Ukraine, on touche toujours au problème de la langue, culturel, politique, quelquefois religieux, puisque les Ukrainiens sont assez souvent pratiquants, etc. Enfin, c'est un fait qui a de multiples ramifications, donc des angles d'attaque différents possibles. Moi, j'ai voulu réunir un peu tout ça, parce que c'est vrai que dans le chapitre 4 qui fait la moitié du film, on voit énormément de scènes d'église, mais on voit aussi énormément de discussions sur la langue, on voit énormément de discussions politiques, on passe au Maïdan, qui a été aussi un élément décisif pour faire ce film, c'est que j'ai la chance incroyable d'avoir vécu une révolution populaire. C'est rare de pouvoir, dans la vie de quelqu'un, traverser une chose pareille, et c'est extrêmement puissant à vivre, quoi. Ça, je peux
vous parlant du Maïdan, on pourrait aussi s'interroger justement sur les relations Est-Ouest. Et qu'est-ce que vous a appris ce documentaire ? Finalement, quel regard on porte en tant qu'occidental sur l'Ukraine et l'Europe de l'Est et vice-versa ?
Oui, alors comme je le disais, bon, moi, le regard que j'avais, c'était le regard, je pense, d'un lambda européen, c'est-à-dire que je ne savais pas, je savais que les Ukrainiens étaient d'anciens soviétiques, mais je n'en savais pas beaucoup plus. J'avais quelques clichés dans la tête dont j'essayais de me débarrasser tout seul, etc. Mais c'est vrai que...
Quel genre de clichés est-ce que vous pouviez avoir à l'endroit des Ukrainiens ?
C'est difficile à dire. Enfin, je crois que c'était tellement peu consistant que je m'occupais pas des clichés. Je suis allé en Ukraine vraiment, je crois, l'esprit vide et prêt à tout découvrir.
Mais est-ce que vous pensez que ces clichés font partie de ce qu'on appelle l'imaginaire collectif ?
Oui, je pense. Oui.
Est-ce vous pourriez nous donner un ou deux exemples de manière à ce qu'on puisse se situer des deux côtés de la frontière ?
Bon, moi, quand je suis arrivé la première fois à Kharkov, c'est vrai que les clichés se sont vérifiés. C'est-à-dire, ils habitent tous dans des bars soviétiques. Il n'y a pas de concierge. Les rues sont trouées, etc. Mais ça, c'est des clichés à la limite secondaires, puisque ça tient pas à la façon dont on regarde les gens. J'avais un gros point d'interrogation par rapport aux gens. Je pensais qu'ils avaient des vies de voisins, des vies de voisinage, par exemple, très fortes, ou un système des très forts, et ça s'est vérifié. Mais encore une fois, c'est même pas tellement un regard sur les gens, c'est plutôt sur les pratiques. En fait, je ne savais rien des gens eux-mêmes. Et j'ai découvert, évidemment, énormément de choses, puisque j'étais en famille chez Anna.
C'est des gens qui sont très discrets ? Globalement, les Ukrainiens.
Il y a une grosse discrétion, il y a une pudeur, il y a une... Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas des gens très démonstratifs. Par exemple, les premières conversations que j'ai eues en famille, dans sa famille, etc., c'est pas des gens très exubérants, contrairement à ce qu'on dit toujours. Ils peuvent aller très très loin dans la folie, mais de manière générale, ce sont des gens très discrets, très, très humbles.
Mais en tant que fondateur de la CRU, vous côtoyez des Ukrainiens en Suisse. Au travers de ce film, vous avez également rencontré plusieurs Ukrainiens, que ce soit en Ukraine ou en France. Finalement, quel est le regard des Ukrainiens sur l'Ouest ? Il y a comme un mythe qui est en train de s'effondrer, je pense.
Alors, il y a un malentendu. C'est vrai que, par exemple, je vais essayer de répondre à cette question-là en la prenant dans l'autre sens. On a souvent pensé que les Ukrainiens, et de manière générale les gens de l'Est, étaient fous d'Europe et étaient fous d'entrer dans l'univers européen et dans l'Europe politique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les gens de l'Est, les Ukrainiens en l'occurrence, puisqu'on parle d'eux, sont très, très, très attachés à leur pays, à leurs racines. Ils sont fascinés par l'Europe dans la mesure où ça peut leur apporter un état de droit, c'est-à-dire une forme de respect pour le citoyen et l'individu. Et c'est ça que l'héritage soviétique n'a pas transmis, puisque c'est pas cet héritage-là. C'est un respect pour le droit, un respect pour la propriété privée, une chose qui est relativement mal connue à l'est de l'Europe, et un respect pour l'individu. C'est pour ça qu'on a appelé le Maïdan la révolution de la dignité. C'est enfin qu'on s'occupe des individus.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question de génération? Parce que dans le documentaire, lorsque vous présentez cette famille Lorraine, qui est d'origine ukrainienne, il parle de ce mythe du passé.
Oui, alors ça, effectivement, ça c'est la diaspora française. Alors c'est encore autre chose, parce que la diaspora française, elle est héritée des années 20-30. Et ce sont des gens qui ont fui soit la guerre, soit le communisme, et qui sont là depuis 4 générations, et qui ne sont pas retournés en Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine soit indépendante. Donc c'est un peu comme les Slovènes aussi dans l'Est, et les Polonais. Ce sont des gens qui redécouvrent leur pays, mais 2 ou 3 générations après, et qui l'ont un peu mythifié, et qui l'ont conservé un peu dans un bocal, avec des vieilles chansons qu'on ne parle même plus dans l'Est de l'Europe, etc. Et le regard est biaisé. Alors, quand ils rencontrent la nouvelle génération qui forme la nouvelle diaspora, ils sont en face de l'Ukraine moderne. Et puis, ça donne des dialogues très intéressants, mais c'est quelquefois décalé, quoi.
Et finalement, la question de la migration donc reste au cœur de votre film. Et pensez-vous que les migrants d'aujourd'hui ont la même histoire que celle d'hier? Et qu'est-ce qui aurait changé finalement dans ce parcours de migration?
Oui, alors quand on compare effectivement les diasporas lausannoises et les diasporas lorraines, alors c'est ce que je viens de dire, on a affaire à des époques extrêmement différentes. Les Ukrainiens qui sont arrivés dans les années 30 dans le nord de la France se sont rués dans les bras de l'industrie parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'il fallait nourrir les familles, etc. Et ils avaient des parcours collectifs, c'est-à-dire qu'ils arrivaient souvent en famille, etc. C'était une fuite. Maintenant, on vient souvent avec un projet. Ça peut être des projets individuels, ça peut être... Bon, alors on connaît aussi l'histoire des couples mixtes, etc. Mais c'est des trucs beaucoup plus construits. Par contre, il reste, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre sur une ONG qui combat l'exploitation humaine, il reste une petite partie des gens qui viennent par désespoir et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et ça, c'est dramatique parce que ça perdure.
Emmanuel Graff, finalement, vous nous dites que votre film est en 4 volets. Quelle est la durée de ce documentaire ?
90 minutes, 90 si vous voulez.
Merci. Tout à fait normal. Et où est-ce qu'on peut le voir ? Si on a intéressé à le visionner.
Alors, j'ai projeté récemment à la Maison de Quartier la version originale, donc la VO. Ah. Donc, la moitié du film est encore en russe ou en ukrainien. Mmh. Et on travaille ce mois-ci à un sous-titrage, mais qui est pénible parce qu'en fait, il y a 3 langues. Il y a le russe, l'ukrainien et le français. Donc, on pense que dans 2 mois, on aura une version parfaitement trilingue.
Eh bien, c'est parfait. Suivez Radio Django, puisqu'on vous tiendra informé de la suite de ce documentaire. Merci beaucoup, Emmanuel Graff, d'être venu nous parler de votre documentaire de la famille, du cinéma, du réel. Et notez encore que La Crue nous fera découvrir en juin, dans La Rose des Vents, le parcours d'un poète engagé, Taras Chevtchenko. Enfin, pour clore ce sujet sur l'Ukraine, un petit bout d'une musique typiquement ukrainienne avec les instruments traditionnels, La Bandoura, une chanson choisie par Anna Klimatova, l'héroïne de Carnet ukrainien.
Radio Django, culture.
Et voici venu le moment de notre agenda hebdomadaire et on commence par une projection de cinéma africain qui se déroule cette semaine-ci, Fabio.
Oui, et ici même avec une nouvelle proposition du Festival Cinéma d'Afrique qui fêtera sa 10e édition du 20 au 23 août prochain à la Cinémathèque et au Casino de Montbenon. Il s'agit d'une séance de rattrapage prévue tous les premiers jeudis du mois et qui permet de voir ou revoir certaines œuvres du dernier festival, dans ce cas celui de 2014. Ce jeudi, The Forgotten Kingdom, le royaume oublié, une fiction co-réalisée par le Lesotho, l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. Sur fond d'images magnifiques sur le Lesotho, une histoire somme toute très prisée par le cinéma africain. La rentrée au pays du personnage principal pour des raisons familiales ou autres, la reconnexion avec la beauté de sa terre natale, finalement une histoire de retour aux racines.
Cela se passe donc ce jeudi le 7 mai à 20h30 à Pôle Sud. L'entrée est libre et gratuite. Un autre tour aux racines avec, Fabio, avec une exposition sur la Dolce Vita, pas celle de Fellini et Anita Ekberg, mais bien la mythique salle de rock lausannois qui ouvrait ses portes il y a 30 ans.
Et c'est pour fêter cet anniversaire que la Dolce, s'offre un beau livre, 240 pages pour 200 photos, en grande majorité déclenché par Yves Lerèche, le photographe permanent du club. Sonic Youth, Red Hot Chili Peppers, Nico, Alain Bashung, Cat Power, Manoneka, Public Enemy.
Eh oui, de beaux souvenirs des textes aussi dans ce livre.
Ouais, de Stéphane Echer, Fernand Melgar, Thurston Moore de Sonic Youth, Pierre Keller, etc. Excusez du peu. Oui. C'était l'époque du rock sans concession qu'on écoute ici par les Toy Dolls dans un enregistrement d'origine à la Dolce. Ce rock qui, avec son lot de jusqu'au boutisme d'expérimentation, a été pour les ânes au-delà de la musique, avec notamment Lausanne Bouge et le Centre Autonome.
Et plusieurs réjouissances autour de ce livre.
Notamment une exposition à l'espace Arlo du jeudi 7 au samedi 9 mai, donc depuis après-demain. Au Dox, le samedi 9 mai, pour une soirée anniversaire qui affiche malheureusement déjà complet. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle d'ailleurs. Et enfin, sur la RTS2, le lundi 11 mai à 21h35, pour le documentaire, La Dolce Vita à l'origine des nuits lausannoises de Frédéric Haussmann.
30 ans plus tard, on vit encore le besoin d'alternatives, comme a pu le faire la Dolce Vita à l'époque. Il s'agit pour cette prochaine manifestation, Fabio, d'assurer un avenir vivable et équitable.
Comment partager la ville, faire de la culture un levier pour le renouvellement urbain, réaliser la transition énergétique et climatique ou encore se loger autrement? C'est à ces questions que tenteront de répondre les journées des alternatives urbaines qui offrent 3 jours pour partager découvertes, expérimentations concrètes dans ces domaines et bien d'autres encore. Ateliers, tables rondes, conférences, mais aussi balades sensibles, cuisine participative, marché libre, etc. Pour vous documenter sur ce programme très, 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 très dense, allez donc sur le site alternativeurbaine.ch. Vous pouvez aussi vous inscrire comme bénévole puisqu'on manque encore aujourd'hui, et oui, de petites mains pour ce grand événement.
Do It Together, un intitulé qui met bien en évidence la volonté d'agir collectivement. Rappelons donc que ces journées pour les alternatives urbaines se déroulent les vendredis 8, samedi 9 et dimanche 10 mai au Théâtre 221 dans le quartier du Vallon à Lausanne. Bien sûr, c'est cette semaine.
Oui, et cette manifestation convie aussi les radios participatives et associatives de Lausanne et Paris, parce que la radio fait aussi partie des alternatives urbaines. Et Django, il sera notamment présent le dimanche 10 mai de 10h30 à 13h. Et cette rencontre est bien entendu ouverte à toutes et à tous.
On rappelle sur cette musique aux accents roumains, Fabio, une belle exposition en 3 volets qui se tient à Lausanne 6 jours même.
Cette musique, effectivement, comme tu le dis, Fabien, aux accents roumains, est composée par Arthur Besson, musicien-compositeur suisse qui accompagne une partie de l'exposition sur les Roms de Yves Lerèche, ce même photographe dont nous avons parlé tout à l'heure pour le livre sur la Dolce Vita.
Oui, on en a parlé même il y a 15 jours sur Django, c'était le 21 avril. Vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site www.django.fm.
La quête infatigable du paradis est le titre d'une exposition qui se tient au Forum et dans les combles de l'hôtel de ville, ainsi que dans un conteneur qui se balade sur plusieurs places de Lausanne. Une plongée dans la vie quotidienne des Roms, citoyens européens, pourtant la minorité la plus discriminée par cette même Europe. Des images réalisées dans les rues de Lausanne et en Roumanie pour mieux connaître ces femmes et ces hommes venus mendier chez nous. À ne pas manquer sous un temps, aucun prétexte, jusqu'au 23 mai.
Un dernier rendez-vous dans l'agenda de ce mardi 5 mai sur Django, celui-ci tout au long du mois de mai, Fabio.
Eh oui, les mercredis du mois de mai, le cinéma Oblo à Lausanne propose une série de conférences à suivre d'un film sur les différents courants de l'extrême gauche politique. Eh oui, trotskisme, stalinisme, maoïsme, anarchisme, il est souvent difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce qui fait leur différence idéologique? Pourquoi existe-t-il tellement de courants différents? À quoi correspondent-ils dans le spectre politique actuel? Grâce à des politologues, on va pouvoir tisser quelques points de repère pour mieux comprendre ces courants politiques, mais aussi philosophiques, théoriques, mais aussi pratiques. Toutes les infos sur oblo.ch.
Merci Fabio pour cet agenda et je vous redonne notre site www.django.fm pour retrouver toutes ces informations et être tenu des dernières actualités dans la région de Lausanne et un peu plus loin. Merci Fabio. Dernière partie de cette rubrique Cultiver Lausanne pour ce soir en tout cas, ce mardi 5 mai, c'est avec Jean-Luc, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec toi, il sera question de la soupe aux livres. Alors, dis-nous-en quelques mots.
Alors, la soupe aux livres, c'est énoncé par Basta, en fait, en relation, aussi en collaboration avec les éditions Parole. Ça aura lieu le vendredi 8 mai, dès 18h30. Alors, il propose une veillée où on lira, on racontera, on chantera, on partagera une soupe.
Ah, quand même, c'est pas un gag, donc.
Comment ?
On va manger, on va pas...
Alors, je pense que... Mélissa Rendu va nous en parler un petit peu plus tout à l'heure de ce genre de soirées qui sont organisées plutôt en France, hein, parce qu'en fait, ces éditions Parole, elles viennent du Var, hein, c'est des éditions qui, voilà, Provence, le Var. Je crois qu'ils organisent assez régulièrement ce genre de soirées dans des municipalités, dans des médiathèques, dans des ludothèques. Voilà, en fait, c'est un concept qui existe peut-être en Suisse romande sous une autre forme, mais en tout cas, c'est la première fois que les éditions Parole viennent en Suisse romande et proposent cette soirée.
Mais il faut quand même reconnaître qu'en Suisse, on n'est pas, en tout cas en Suisse romande, on n'est pas très fervent de ces soirées un peu originales. Bonsoir Mélissa Rendu.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur Radio Django. Donc vous êtes de la librairie Basta.
Oui.
Et ben, heureusement, puisque c'est vous qui organisez l'événement. Donc cette soupe aux livres est la première à Lausanne, et ceci grâce à la venue des éditions Parole. Parlez-nous de cette rencontre et de l'histoire de cette veillée.
Oui, alors en fait, le lien entre les éditions Parole et la librairie Basta s'est fait grâce au succès du livre L'Homme Semence, édité chez cet éditeur. Et ben, c'est l'envie en fait, de l'éditeur Jean Darrault de donner la parole aux gens qui ont quelque chose à partager, à dire, donc lire un livre, lire ses écrits, chanter, lire un poème, enfin, et partager une soupe. Voilà. Et puis, ben, comme il dit sur son site internet, cette soupe aux livres, c'est un peu comme une soupe qu'on fait à partir de ses vieux légumes dans son frigo. C'est un grand mélange et c'est différent à chaque fois, du coup.
Alors, concrètement, vous allez prendre des vieux livres, faire un gros melting pot et puis...
Alors, des vieux livres, je ne sais pas. Après, ça, c'est justement chaque participant qui apporte son petit ingrédient particulier qui fait que cette soupe est particulière.
Épicier des fois.
Oui, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est en fait ces éditions Parole, elles sont très attachées en fait à l'oralité, en fait, ce qu'il y a autour du livre, etc. Vous en tant que libraire, qu'est-ce que ça vous parle, cette question d'oralité, en fait, de conteur, de discussion autour d'un livre?
Bien sûr, je crois que c'est surtout l'envie de partager avec les lecteurs et puis les éditions. Enfin, voilà, c'est tout un monde qui peut se rencontrer. Et puis ben donc l'éditeur a ce rôle de donner la parole aux gens et après le libraire a le rôle de transmettre et de passer ses livres, ses écrits et les mots de ces gens et du coup ouais.
Mais dans votre travail quotidien, ça vous arrive de proposer régulièrement des livres quand il y a... Bon, vous travaillez à Basta d'Origny. Donc, c'est surtout des livres académiques. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a quand même des gens qui viennent chercher d'autres types de lectures, peut-être de temps en temps, pour sortir un peu des études, etc. Est-ce que vous avez ce genre de discussions qui sont justement près de réalité ou tout à coup, par votre passion, ce que vous avez lu, vous leur proposez des choses?
Oui, alors quand ça arrive, ça, c'est vraiment c'est tout ce qu'on peut espérer de mieux en librairie, c'est de pouvoir discuter avec les gens, dialoguer et de nous leur proposer des livres, mais aussi quand eux nous suggèrent des lectures, ça c'est quelque chose d'inestimable.
C'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de gens qui viennent commander des livres chez vous, autres que les livres académiques. Il y a aussi des gens qui... Bon, je sais que peut-être ça se passe plus à Basta Chaudron, mais vous avez de temps en temps des demandes de ce type-là?
Ça arrive pas très souvent, mais de temps en temps, et ça fait toujours super plaisir.
Parce qu'en fait, on sait qu'à Basta, il y a aussi plusieurs soirées qui sont organisées autour de lecture de livres, autour de la découverte d'un auteur. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des choses qui sont prévues après cette soupe du livre?
Alors oui, il y a plusieurs projets un peu. Il y aura une soirée autour du livre de M. Daflon qui s'appelle « Il faut bien que jeunesse se fasse » qui se fera par contre là à l'université à Dorigny, parce qu'on veut, à Dorigny, on veut essayer de proposer plus d'événements en lien avec la culture plus que juste proposer les livres pour les cours.
Alors, comme on a l'habitude que Basta nous propose toujours un livre, une fois par mois, je sais que vous nous avez préparé quelque chose, vous avez concocté une petite surprise.
Oui, alors, moi, je suggère à tout le monde de lire le nouveau livre de Carlos Salem qui s'appelle Le plus jeune fils de Dieu, où, en fait, c'est... Comment dire des journalistes de la presse à scandale qui se font assassiner les uns après les autres. Et tous ces meurtres ont en commun que tous ces journalistes ont humilié Dieu Junior, qui a disparu. Et donc son ami Po part à sa recherche avant qu'il se fasse éliminer lui-même par d'autres. Et c'est super subtil, c'est hyper drôle, burlesque, enfin...
Il semble que c'est très décalé, il fait qu'il y a une série de personnages assez incroyables. Est-ce que c'est un peu proche de l'histoire aussi de l'Argentine, enfin du milieu argentin, de ce qui se déroule actuellement, ou c'est pas tellement lié à l'histoire sociale?
Pas spécialement, non. Ces livres se passent essentiellement en Espagne, autour de Madrid. Parce que Carlos Salem est argentin, mais vit depuis de nombreuses années à Madrid.
Parce que Basta propose pas mal de livres de policiers. Actuellement, c'est intéressant, parce qu'il y a un tas de gens qui recommencent à lire par... justement ce type de lecture, les policiers, etc.
Oui, ça a l'air peut-être plus accessible parfois que d'autres littératures. Après, c'est un genre peut-être plus simple et plus, comment dire, divertissant.
Vous pouvez peut-être nous rappeler quand même le titre du livre et puis où on peut le trouver?
Alors, le titre du livre, c'est « Le plus jeune fils de Dieu » de Carlos Salem aux éditions Actes Sud, que vous pouvez trouver chez Basta.
Évidemment. Merci beaucoup, Mélissa Rendu, d'être venue ce soir nous parler de votre prochain événement qui se tient ce vendredi même, le 8 mai à 18h30. C'est donc chez vous à la librairie Basta à Chaudron. Notez, c'est au chemin du Petit Rocher 4 à Lausanne, donc ce vendredi 8 mai à partir de 18h30. Très bon événement, Mélissa Rendu, et à bientôt sur les ondes de Radio Django. Tout grand merci à vous de nous avoir suivis ce mardi soir, c'était le 5 mai. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les sujets en podcast sur notre site internet, bien sûr. Bon, vous savez l'adresse, hein, j'imagine, depuis le temps, mais je vous la redis, hein, puisqu'une fois de plus, ça fait toujours du bien. www.django.fm. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, puisque nous sommes à la page du jour, et de page, c'est le bon terme, avec une petite recherche Radio Django. Au programme de la semaine prochaine, nos trois rubriques, on commence avec Vivre à Lausanne. Le thème de ce mois de mai, eh bien, c'est le logement dans la capitale vaudoise. Épineuse question, et Gabriel viendra nous en parler, et précisément avec l'As Loca. La Rose des Vents accueillera l'espace Mosaïque et Elengo, une association colonisation de l'Afrique. Suspense d'ici mardi prochain. Et enfin, le rendez-vous agenda habituel de Cultiver Lausanne. Toutes les infos à suivre et à retrouver sur notre site django.fm. On compte sur vous mardi prochain à partir de 18h. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. Et on se retrouve donc mardi prochain avec de nouvelles aventures, de nouveaux invités et plein de nouvelles chroniques. D'ici là, on vous embrasse et à très bientôt.